France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir à tous. Les États-Unis s'attaquent désormais aux navires pétroliers qui s'approvisionnent au Venezuela. Les Américains se sont emparés aujourd'hui de deux bateaux dans les Caraïbes et dans l'Atlantique Nord. L'un de ces navires est sous pavillon russe. La classe politique américaine divisée sur les menaces de Donald Trump contre le Groenland. Dans le camp républicain, des élus s'élèvent contre les ambitions militaires du président américain. En France, le gouvernement veut empêcher les agriculteurs de bloquer Paris. La coordination rurale dénonce la possible signature de l'accord européen avec les pays du Mercosur. Le Conseil supérieur de l'éducation rejette massivement l'interdiction des portables au lycée, interdiction que veut mettre en place le gouvernement. Mesure inapplicable, disent les syndicats d'enseignants. Après avoir capturé Nicolas Maduro, les États-Unis de Donald Trump continuent à montrer les muscles. Les Américains s'attaquent maintenant aux pétroliers soupçonnés de s'approvisionner au Venezuela. Ils ont saisi aujourd'hui deux navires, l'un dans les Caraïbes et l'autre dans l'Atlantique Nord, au large de l'Islande. Le blocus du pétrole vénézuélien est en vigueur partout dans le monde, a décrété le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, sur le réseau X. Eric Biegala, dans l'Atlantique Nord, c'est un pétrolier battant pavillon russe qui a été saisi.
C'est manifestement grâce à une nouvelle opération de leurs forces spéciales que les Américains se sont rendus maîtres du Marinera. Le pétrolier, qui s'appelait encore le Bella One, battant pavillon vénézuélien il y a quelques semaines et qui circulait à vide depuis l'Iran, d'où il était parti fin août, et était sur le coup de sanctions américaines, avait fait demi-tour au large des côtes vénézuéliennes le 21 décembre dernier, manifestement bloqué par l'armada américaine ancrée au large du Venezuela. Il avait entrepris de retraverser l'Atlantique, après changement de nom et de pavillon, un pavillon russe, et se dirigeait manifestement vers Saint-Pétersbourg en Baltique ou Mourmansk sur la mer de Barents. La Russie avait prévenu qu'elle enverrait un sous-marin d'attaque pour l'escorter. Apparemment, la menace n'a pas été suivie d'effet ou n'a pas servi à grand-chose. Il faut dire que les Américains ont déployé d'énormes moyens, aériens, maritimes et leurs forces spéciales pour appréhender le navire à environ 260 km au sud-est de l'Islande. Des images diffusées par la chaîne russe RT montrent des hélicoptères de type Little Bird, typiques des forces spéciales américaines, flanqués d'hommes en armes et s'approchant du tanker en pleine mer. En l'air, plusieurs avions d'attaque ou de surveillance, ainsi qu'un avion Poséidon de lutte anti-sous-marine, semblent avoir couvert l'opération, de même qu'au moins un appareil de la Royal Air Force. En mer, le navire des gardes-côtes américains USCGC Monroe était également sur la zone. En début d'après-midi, les données satellites indiquaient que le Marinera avait abruptement changé de cap, probablement suite à l'opération américaine. Le tanker fait maintenant cap non plus vers la Russie, mais au sud-sud-est, se dirigeant vers les côtes britanniques.
Eric Biegala, merci. Les prétentions hégémoniques américaines, ce sont aussi les menaces répétées de Donald Trump sur le Groenland. Plusieurs options sont sur la table pour s'emparer du territoire autonome danois, y compris l'option militaire, a affirmé hier soir la porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt. Une attaque américaine contre un membre de l'OTAN, le Danemark, ce serait la fin de tout, avait averti la première ministre danoise Mette Frederiksen. Nous sommes avec Gwendal Lavina, correspondant aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Gwendal, à Washington aussi, plusieurs responsables politiques dénoncent les menaces de Trump sur le Groenland, y compris dans le camp républicain du locataire de la Maison-Blanche.
Oui, c'est même un mélange de sidération et de colère assez inhabituel qu'expriment publiquement de nombreux élus républicains, à tel point qu'après Marco Rubio, hier, Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, a tenu à rassurer ses collègues cet après-midi. La Maison-Blanche, affirme-t-il, étudie les canaux diplomatiques et l'option militaire évoquée hier faisait partie de propos généraux. Des républicains montent pourtant au créneau et critiquent le président, dont certains quelques jours après avoir applaudi l'intervention militaire au Venezuela. Brandir la menace d'une annexion du Groenland est inutilement dangereux, s'insurge Blake Moore, coprésident républicain du groupe des Amis du Danemark. Il rappelle qu'une attaque contre le territoire constituerait tragiquement une attaque contre l'OTAN. Don Bacon, lui, a déjà critiqué Donald Trump par le passé, mais cette fois il évoque, je cite, une idée complètement débile. Menacer un allié ne fait que nous affaiblir, ce qu'adorent la Russie et la Chine, prévient-il. D'autres élus républicains ne savent pas trop comment interpréter les récents récents propos de Donald Trump. Je ne sais pas à quel point c'est de la fanfaronnade, s'interroge le sénateur Rand Paul, quand l'élu de Louisiane, John Kennedy, explique simplement que le président aime penser à voix haute et énerver les journalistes. Le secrétaire d'État Marco Rubio insiste sur le fait qu'une transaction financière pour l'acquisition du Groenland est la solution privilégiée, une idée rejetée de longue date par le Groenland et le Danemark.
Merci Gwendal Lavina en direct de New York. La réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine a-t-elle vraiment servi à quelque chose? Hier à Paris, les dirigeants présents avaient évoqué des avancées notables concernant les garanties de sécurité données à Kiev en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Changement de ton aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme n'avoir pas reçu de réponse claire de la part de ses alliés européens sur la manière dont il réagirait concrètement en cas de nouvelle attaque russe contre l'Ukraine après la fin de la guerre. Virginie Pironon.
Oui, interrogé alors qu'il était en déplacement aujourd'hui à Chypre, pays qui prend pour 6 mois la présidence tournante de l'Union européenne, le président ukrainien a donc fait part de ses doutes quant au plan des Européens si la Russie, en cas de cessez-le-feu, attaquait à nouveau l'Ukraine.
C'est une question très complexe à laquelle je souhaite personnellement obtenir une réponse très simple. Oui, en cas de nouvelle agression, tous les partenaires réagiront fermement face aux Russes. C'est exactement la question que j'ai posée à tous nos partenaires et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse claire et sans équivoque.
Hier, au sommet de Paris, le président ukrainien avait pourtant salué un plan concret sur les garanties de sécurité et pas qu'une simple déclaration, saluant, je cite, « un signal fort de la part des pays européens pour travailler sur la sécurité globale ». Alors que les discussions entre les délégations ukrainiennes et américaines se sont poursuivies aujourd'hui, Volodymyr Zelensky l'a rappelé à plusieurs reprises, en cas de cessez-le-feu, il serait capital pour l'Ukraine d'être protégée d'une nouvelle agression de la part de Moscou. Ce qui est appelé le backstop américain doit être la priorité. Les garanties de sécurité apportées à l'Ukraine doivent être fondées sur des obligations juridiques, affirme Volodymyr Zelensky, approuvées par le Congrès américain.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. La Syrie n'en a pas fini avec la violence malgré les promesses du nouveau pouvoir du président Al-Sharré. Des affrontements ont éclaté hier entre les forces kurdes et les soldats du régime à Alep, la deuxième ville du pays. Les troupes gouvernementales veulent reprendre le contrôle des deux quartiers tenus par les FDS, les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes. Les négociations pour leur intégration au sein de l'armée nationale patinent. Résultat, des combats sporadiques qui ont déjà fait plusieurs morts civiles depuis la fin décembre. On fait le point avec notre correspondante dans la région, Marie-Pierre Véraud.
Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des cohortes d'habitants quittant les deux quartiers d'Ashrafi et de Shermassoud à Alep, tenus par les forces kurdes et déclarés cibles militaires par l'armée syrienne. Plusieurs dizaines de milliers de Syriens qui ont fui les combats par des corridors humanitaires, ils avaient jusqu'à 15 heures, heure locale, avant que l'armée ne commence à bombarder les positions des FDS. Les tirs résonnent de nouveau à Alep. L'objectif affiché de Damas est de reprendre le contrôle de l'axe principal qui coupe ces quartiers en deux et ouvre l'accès au reste de la province. Les autorités syriennes qui accusent les FDS d'utiliser ces quartiers comme des poches de déstabilisation. Les affrontements sporadiques avaient repris il y a 2 jours, faisant au moins 9 morts, chacun imputant à l'autre la responsabilité de l'escalade. Pour l'heure, les affrontements sont limités à Alep, mais nul ne peut exclure un conflit de plus grande ampleur. Ce n'est a priori pas la volonté du gouvernement de Damas, conscient des faiblesses de son armée. Le constat que les FDS et les autorités syriennes ne peuvent se partager une ville augure mal d'une collaboration pour l'ensemble du pays.
En France, le gouvernement met en garde les agriculteurs en colère. On peut manifester, mais on ne peut pas bloquer Paris, déclarait ce matin la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Message adressé au convoi de la coordination rurale qui roule actuellement vers la capitale pour une manifestation prévue entre jeudi et vendredi. Annie Genevard qui s'engage à défendre les intérêts des agriculteurs, même si l'accord avec les pays du Mercosur devait être signé. Et le Premier ministre Sébastien Lecornu promet des réponses concrètes vendredi. Insuffisant pour dissuader la trentaine d'agriculteurs de la coordination rurale partie de Dordogne lundi. Ils sont aujourd'hui à 100 kilomètres de Paris. C'est un reportage de Thibaut Delmarle, ici Périgord.
Deux jeunes agriculteurs du convoi réparent les tracteurs, éprouvés par les 500 kilomètres parcourus sur la route, bien souvent enneigée. Ils ont entendu la ministre ce matin. Ils sont fatigués physiquement et moralement, mais pas question de faire demi-tour. Matisse a 20 ans, il est éleveur dans le Périgord vert.
Je ne compte pas faire marche arrière après tous les kilomètres que j'ai fait. Si on a fait ça aujourd'hui, tous ensemble, ce n'est pas pour repartir la queue entre les jambes. Ce n'est pas pour amuser la galerie qu'on est là. Aujourd'hui, c'est des choses concrètes qu'on attend.
Il s'affaire avec un collègue qui est installé à quelques kilomètres de chez lui dans le Périgord, Guillaume, 26 ans, qui veut des garanties et pas des paroles de la part du gouvernement.
On veut quelque chose d'écrit. Et tant qu'on n'aura pas des choses écrites, signées, actées, on ne bougera pas. Rien nous fera renoncer. On ira jusqu'au bout. On est révoltés. Aujourd'hui, on crève. On crève tous autant qu'on est. Tous, on crève. Et on va tous y passer. On est déterminés. Et on ira jusqu'au bout.
Dans cette ferme à une centaine de kilomètres de Paris, ils attendent encore d'autres délégations de la coordination rurale. Ils vont reprendre la route ce soir avec un itinéraire secret pour rejoindre le périphérique parisien dans les prochaines heures avec leur tracteur et les grands drapeaux jaunes accrochés à leur cabine.
Et pendant ce temps-là, à Bruxelles, les ministres européens de l'agriculture sont réunis pour préparer la signature de cet accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. Accord que conteste pour l'instant la France, mais Paris semble sur le point de perdre le soutien de l'Italie. C'est l'une des dernières réformes majeures d'Emmanuel Macron, l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans et des téléphones portables au lycée. Un projet de loi avec deux articles qui doit être débattu dans les prochaines semaines au Parlement. Mais dès aujourd'hui, le deuxième volet du texte, le bannissement des smartphones au lycée, a été soumis pour consultation au Conseil supérieur de l'éducation où siègent notamment les syndicats enseignants. Et le Conseil, Hakim Kasmi, s'est prononcé quasiment à l'unanimité contre cette interdiction.
Avec 60 voix contre, 4 pour et 7 abstentions, les syndicats ont rejeté massivement le texte contre l'interdiction des téléphones portables au lycée. Une mesure qu'estime inapplicable Olivier Beaufrère, secrétaire national du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement.
Nos établissements sont vastes, on a un très grand nombre d'élèves, on a effectivement des lycéens, des étudiants, on a également des apprentis. Donc voilà, on a toute une population qui fonctionne. Un lycée, ça peut être un jeune de 14 ans et puis un jeune de 22 ans. Donc on est déjà habitué à ce que ces jeunes fonctionnent ensemble. Maintenant, dire à certains, vous ne pouvez pas utiliser vos portables, et dire aux autres, bah vous avez une forme de majorité, vous pouvez les utiliser, ça nous semble être effectivement compliqué et puis irréalisable parce qu'on ne pourra pas mettre un nombre d'adultes importants pour vérifier.
De son côté, Sophie Venetité, la secrétaire générale du SNES FSU, qui parle d'une mesure précipitée, dénonce également une opération de communication de la part d'Emmanuel Macron et du ministre de l'Éducation, Édouard Geffray.
On pourrait réfléchir à une utilisation raisonnée du numérique, à avoir des espaces sans écran au sein des lycées. Tout ça n'a jamais été évoqué. Il y a quand même un paradoxe à voir aujourd'hui le ministère se réveiller sur la question du téléphone portable après avoir promu pendant des années l'utilisation et la surutilisation du numérique dans les établissements scolaires.
En attendant, le Conseil d'État doit rendre son avis sur le texte demain. Quant au gouvernement, il espère une adoption au Parlement d'ici le printemps.
Explication signée Hakim Kasmi. Nous, les Républicains, on veut que le travail paye. Voilà comment le patron de LR, Bruno Retailleau, a résumé ce matin son programme économique baptisé « Travail gagnant ». L'ancien ministre de l'Intérieur veut restituer 30 milliards d'euros aux salariés et aux entreprises en contrepartie d'un effort qu'il qualifie d'utile. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Avec ce programme économique, Bruno Retailleau montre qu'il a toujours des ambitions pour la prochaine élection présidentielle, malgré son départ non maîtrisé du gouvernement en septembre dernier.
C'était la première d'une série de conférences de presse programmatiques qu'a donné ce matin Bruno Retailleau depuis le siège du parti Les Républicains. D'autres suivront dans les semaines à venir. Il a dressé le constat d'une France qui se déclasse et s'appauvrit, et dénoncé un modèle qu'il a qualifié de « social-étatique à bout de souffle ».
Ce modèle qui est à bout de souffle, c'est un modèle qui a reposé sur deux grands mensonges. La dévalorisation du travail, travaillez moins et vous vivrez mieux, la retraite à 60 ans, les 35 heures. Et l'autre mensonge, c'est l'assuétude à la dépense publique, l'addiction pour faire plus simple. Désormais, la fête est finie. Le pouvoir d'achat ne pourra plus venir de la dépense publique, de l'argent de l'État, il ne pourra venir que de la création de richesses. du travail.
Et pour ça, Bruno Retailleau veut inciter les Français à travailler plus, en exonérant par exemple les salariés et les entreprises de cotisations sur les heures supplémentaires, ou encore en favorisant le cumul emploi-retraite, permettant aux retraités de cumuler une partie de leur pension en plus d'un salaire qu'ils percevraient en travaillant. Avec cette thématique et ses propositions, l'ancien ministre de l'Intérieur veut passer à autre chose, faire oublier son départ raté du gouvernement en septembre dernier et commencer à bâtir un projet présidentiel.
J'étais, je pense, très très identifié sur les sujets régaliens et les questions sécurité, les questions immigration me collent à la peau. Celles et ceux qui me connaissent savent que pour moi l'économie est un peu ma langue maternelle. Première chose. Deuxième chose, moi je pense qu'on est comme en 58. Le général de Gaulle en 58, quand il arrive, avant de déployer sa politique de souveraineté, d'indépendance nationale, il va reconstruire économiquement le pays.
L'économie est aussi une thématique sur laquelle les Républicains s'estiment plus crédibles que le Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, avec lequel Bruno Retailleau refuse de faire alliance, mais dont il prétend récupérer une partie des électeurs.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Des responsables politiques, il y en avait très peu aujourd'hui à Saint-Tropez pour les obsèques de Brigitte Bardot, disparue le 28 décembre dernier, trois tout au plus. Marine Le Pen pour le Rassemblement national, Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes pour le gouvernement, et le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. Un millier de personnes ont suivi la cérémonie sur des écrans géants installés sur le port et dans le centre. Cérémonie discrète, la famille de Brigitte Bardot avait refusé un hommage national. Le reportage à Saint-Tropez de Mathilde Vinceneux.
On ne voulait pas d'une cérémonie politique, a lancé la maire d'hiver droite de Saint-Tropez, Sylvie Siri. Brigitte Bardot a été enterrée sans chichi, dans l'intimité, et si la députée RN Marine Le Pen était présente. Elle s'est fait discrète. Elle s'est contentée de quelques mots d'hommage avant d'entrer dans l'église.
Une femme gigantesque, la liberté, l'impertinence, la franchise, l'engagement, les convictions. Puis le sacrifice quand même. Sacrifice qu'elle a fait pour une cause.
Brigitte Bardot est celle qui a le plus tôt en France et dans le monde éveillé les consciences quant au bien-être animal, a salué pour sa part Aurore Berger. La ministre était la seule membre du gouvernement invitée à la messe par la fondation Brigitte Bardot. Et pour les fans qui sont venus dire au revoir à l'icône, c'est de cet engagement dont il faut se souvenir, comme l'expliquent Didier et Patricia.
Une défenseuse courageuse et acharnée de la cause animale. C'est surtout ça qu'on veut retenir d'elle.
J'espère que ce qu'elle souhaitait pourra se concrétiser, à savoir la suppression de la chasse à courre. Ce serait légitime par rapport à tout ce qu'elle a fait.
Le combat de Brigitte Bardot pour les animaux doit continuer, martèlent ceux qui sont venus lui rendre hommage. Beaucoup sont d'ailleurs venus à Saint-Tropez en compagnie de leurs chiens.
Brigitte Bardot qui repose désormais dans le cimetière marin du petit port varois à qui elle a donné une renommée mondiale. Première Lune, c'est le titre d'un documentaire qui sort aujourd'hui au cinéma. Un film où cinq jeunes femmes à travers le monde racontent leurs premières règles. Elles sont françaises de métropole et de la Réunion, québécoises, rwandaises et sénégalaises. Réalisé par Mélanie Mello, le documentaire aborde les rituels et la relation mère-fille pendant cette période cruciale du passage de l'enfance à l'adolescence. Autoproduit et autofinancé, il lève aussi le silence et le tabou qui entourent les règles dans notre société. Romane Salge.
Que ce soit dans la campagne rurale rwandaise ou au Québec, la transmission entre grand-mère, mère et fille est au cœur de ce film.
Prends ce trésor, ma fille. Il est à nous toutes. Ton sang n'est pas honte.
Mélanie Mello, réalisatrice du documentaire Première Lune.
Et c'est un passage durant lequel on entend toujours les mêmes phrases quand on est jeune fille, comme tu vas devenir une femme maintenant, on sait pas trop quoi faire avec ça quand on est jeune fille. C'est pour mettre vraiment de la conscience sur la nécessité d'avoir du temps pour s'approprier ce passage. C'est le but du film, d'amener ça.
Des témoignages compliqués à trouver pour le tournage.
Ça a été vraiment plus difficile de trouver des gens autour de moi qui acceptaient de parler des menstruations plutôt que de trouver des personnes qui acceptaient que je filme, par exemple, un accouchement. Pour les jeunes filles, c'était plus évident que pour les mères et les grand-mères.
Les règles considérées comme dégoûtantes, ce tabou subsiste alors à travers les générations, selon Élise Thiébaud, journaliste et autrice de plusieurs ouvrages autour des menstruations, comme « Ceci est mon sang ».
Il y a beaucoup de peurs qui entourent la question des menstruations, la peur des douleurs, la peur de la honte. Ce sont des peurs transmises par les générations précédentes. Les mères, les grand-mères qui, elles, ont vécu dans un tabou beaucoup plus fort que ce qui existe aujourd'hui. Et quand quelque chose nous est transmis dans la peur ou la honte, il est très difficile de s'en libérer. Ça demande un travail psychique et social important.
Malgré certains progrès, comme le remplacement du liquide bleu en rouge dans les publicités pour protection périodique, une Européenne sur deux considère les règles comme un sujet tabou, selon un sondage mené par OpinionWay, datant de 2025.
On termine ce journal avec un mot du temps. Ce soir et demain, toujours dominé par la neige, même si le Rodou arrive par l'ouest, 14 départements restent en vigilance orange, neige et verglas, du nord de l'Occitanie aux Ardennes. Deux autres départements passent à l'orange, les deux Savoies, en raison des chutes de neige conséquentes sur les Alpes. Enfin, vigilance orange pour vent violent pour quatre départements normands, le Calvados, l'Eure, la Manche et la Seine-Maritime. Les températures remontent entre moins 2 et 10 degrés pour les minimales. L'après-midi, il fera entre 6 et 16 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique Alexandre Dang.